Alors, je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans Jérémie, chapitre 18, chapitre 18. Le titre du message ce matin, c'est « Une vie transformée ». Alors, on a chanté le cantique 14 sur le potier. Il y a quelqu'un qui a parlé dans la prière du potier. On va terminer le culte avec le chant du potier. Mais je pense que ce matin, c'est l'application. En tout cas, c'est le message que Dieu a placé sur mon cœur. Jérémie, chapitre 18. Deux femmes se rencontrent dans un salon de beauté. La première dit à la deuxième, « Mais c'est Marie-Saint-Claire, j'en reviens pas, ça fait tellement d'années. » J'aime bien ta coupe de cheveux, de plus tu as perdu du poids, tu parais tellement jeune. L'autre répond, mais je ne m'appelle pas Marie-Sainte-Claire. Oh, dit la première femme, je ne savais même pas que tu avais aussi changé de nom. Si Dieu vous donnait l'occasion de faire en sorte que votre vie soit totalement transformée, est-ce que vous saisiriez cette opportunité ce matin? Au verset 2 de Jérémie, chapitre 18, Dieu demande à Jérémie de descendre dans la maison du potier. Lisons ensemble ce que le Jérémie dit ici dans les versets 3 à 6. « Je descendis dans la maison du potier et le trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il faisait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre. Comme il le jugeait bon, alors le Seigneur me confia ce message, « Jean d'Israël, « ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier ?» demande le Seigneur. « Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. » Si Dieu vous donnait l'occasion de faire en sorte que votre vie soit totalement transformée ce matin, est-ce que vous saisiriez cette opportunité? Chers amis, le métier du potier est l'un des plus anciens métiers connus. Et lorsque j'arrive dans un endroit où il y a un potier, et que je le vois en train de tenir dans ses mains de l'argile. Je m'arrête pour le regarder travailler parce que ce n'est pas qu'un métier, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. C'est un artiste, un potier. Le potier, il prend une boule d'argile qu'il découpe en petits morceaux avec un couteau. Il prend alors la boule dans ses mains et il commence à la tordre. Il commence à la façonner, à la pétrir. Il la tape un peu sur la table, il la replace. Il recommence la même opération jusqu'à ce que toutes les bulles d'air et les impuretés qui se trouvent dans la boule soient éliminées. Il continue jusqu'à ce qu'elles deviennent douces et malléables, enfin, jusqu'à ce qu'il obtienne la consistance qu'il veut obtenir de l'argile. Et sous la table, quand vous regardez, aujourd'hui c'est électrique, mais à l'époque, sous la table, il y avait une roue. Et il y avait toujours un pied, le potier avait toujours un pied sur la roue, pour faire tourner la roue, parce qu'au-dessus de la table, il y a un tour sur lequel il déposait son argile. Et cette roue, bien, comme je le disais, elle sert à faire tourner le tour qui se trouve sur la table sur laquelle il a placé le morceau d'argile. Ensuite, il commence à la caresser avec ses deux mains. Alors, il la prend, et là, et avec ses deux pouces à l'extérieur, ses mains à l'extérieur, il commence à la caresser pour essayer de lui donner la forme qu'il veut bien lui donner. Vous avez sûrement vu cela à la télévision ou à l'extérieur en voyage. C'est quelque chose de magnifique à regarder. Et lorsque le potier a terminé avec cette argile qui ne valait pas grand-chose au départ, il en ressort un magnifique vase qui sera utilisé pour la plus grande joie de son propriétaire. Frères et sœurs, il y a plusieurs ingrédients qui sont utilisés pour fabriquer une poterie, mais il y en a trois principaux qui sont mentionnés ici dans le texte. Il y a le potier, il y a l'argile et il y a la roue. Pardon. Et nous y trouvons là un grand message pour vous et moi ce matin. Si Dieu vous donnait l'occasion de faire en sorte que votre vie soit totalement transformée ce matin, est-ce que vous saisiriez cette opportunité? Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, il est difficile pour nous de comprendre la patience que tu exerces dans ton Église, auprès de ceux qui te connaissent. Il est difficile de comprendre la patience que tu exerces auprès des gens de ce monde qui vivent sans toi, qui prennent plaisir même à vivre tout le contraire de ce que tu nous enseignes dans ta parole. Seigneur, il est difficile de comprendre, Seigneur, ta patience. de continuer à nous laisser ta parole, de continuer à nous la laisser lire en toute liberté, alors que trop souvent, Seigneur, nous la négligeons. Seigneur, merci pour ta grande patience. Merci aussi pour ton grand amour. Seigneur, que ce matin, nos cœurs puissent être interpellés par ta parole. Parce que dans le texte que nous allons lire ensemble, le potier, Seigneur, c'est toi. L'argile, c'est nous. Et la roue, Seigneur, ce sont les circonstances de la vie. Que nous puissions ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que nous sortions de ce lieu transformé ce matin. Parce que ton esprit aura parlé à son Église. Parce que ton esprit aura parlé à nos cœurs. Et cela pour la plus grande gloire de ton nom. Et c'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. 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 Dans un premier temps, j'aimerais que vous voyiez ce que j'appelle le potentiel qui se trouve chez quelqu'un. On va lire les six premiers versets tout de suite. Tiens. On va lire les versets de 3 à 6. Je descendis de la maison du potier, on va la relire, hein, et le trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il faisait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre, comme il le jugeait bon. Alors le Seigneur me confia ce message. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard? Et gens d'aujourd'hui qui entendez ce message, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard, comme ce potier demande le Seigneur? Gens d'aujourd'hui, vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Gens d'aujourd'hui, laissez-moi vous transformer, à faire en sorte que vous puissiez un jour ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je dis, en me basant sur le verset 6 dans un premier temps, j'aimerais que vous voyiez ce que j'appelle le potentiel qui se trouve chez quelqu'un qui laisse Dieu travailler dans sa vie. Considérez que vous êtes l'argile et regardez ce que Dieu peut faire avec vous, verset 6. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier, demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Chers amis, il n'y a rien de très appétissant à regarder un morceau d'argile. C'est pas très attirant. C'est même, je dirais, laid. C'est fragile à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce n'est pas propre. Et l'argile en elle-même, elle n'a aucune puissance. Et la parole nous laisse voir ici que nous représentons l'argile. Nous sommes faits de la poussière de la terre, fragiles, imparfaits et impuissants. Et Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Si Dieu est le potier, si nous sommes l'argile, que représente la roue? Elle représente les circonstances de la vie. Dieu est non seulement celui qui fait tourner la roue, mais il est aussi celui qui provoque des situations dans nos vies qui feront de nous des gens méconnaissables. Il sait le nombre de tours qu'il faut pour accomplir, ce qu'il a prévu pour que nous devenions utilisable pas entre ses mains. Et la majorité des gens pensent que certaines situations qu'ils ont vécues dans leur vie sont sans importance ou n'ont aucun sens, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui est laissé au hasard avec Dieu. Lorsque je rejette un regard en arrière, il y a des choses que j'ai vécues qui me semblaient être sans importance, et pourtant, Dieu agissait pour m'amener un jour à entendre l'Évangile et à recevoir de son Fils Jésus-Christ. Et pourtant, je pouvais être découragé à travers les situations que je vivais. Mais Dieu, connaissant toutes choses avant, savait où les cœurs pouvaient m'amener. Mais j'avais le choix de l'accepter ou de refuser. Mais il n'y a rien qui est fait par hasard avec Dieu. Certaines choses que vous avez vécues peuvent paraître insignifiantes, mais pas pour Dieu. Ces choses sont très importantes parce que lui qui est le maître potier veut transformer l'argile que nous sommes. Il est bon de retenir, frères et sœurs, que Dieu est le potier et c'est lui le maître d'œuvre. C'est lui qui nous a formés, dit l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en bonnes œuvres et ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. On ne comprend pas toujours ce qu'il nous permet de vivre, ni pourquoi il nous appelle à un endroit plutôt qu'à un autre, mais Dieu sait mieux que nous quel est le meilleur pour nos vies. Il a dit à Isaïe, « Ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. » En fait, dans la Louis II, vos voix ne sont pas mes voix, mais je le dis en français courant. Ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre vos méthodes et entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. Chers amis, Dieu pense différemment. Il ne faut jamais dire, si j'étais Dieu, voici comment je ferais. Ça vous est déjà arrivé, ça? Hein? Combien de fois j'ai entendu des gens, ah, moi, si j'étais Dieu, hey, ça ne se passerait pas comme ça. Hein? Il y en a combien qui disent ça? J'en ai déjà entendu souvent. Hein? On rapporte que deux jeunes garçons qui habitaient sur une ferme se trouvaient un jour assis sous un chêne en train de regarder un champ de pastèques. Bon, nous, on dit des melons d'eau. Québec, ici, vous dites des pastèques. Pour me faire comprendre, je vais dire pastèques. Le plus grand dit à l'autre, « Tu sais, si j'étais Dieu, je ne mettrais pas ces énormes pastèques attachées après cette petite vigne si fragile et ces petits glands sur ce grand arbre. J'aurais fait plutôt le contraire, moi. » Alors qu'il venait à peine de cesser de parler, un gland se détacha du chêne et atterrit sur sa tête. Il était tout heureux que ce ne soit pas une pastèque. Il vous est peut-être déjà arrivé de dire, « Si moi j'étais Dieu, voici comment je ferais les choses. » Mais voilà, Dieu pense autrement que ce que nous pouvons penser, parce que Dieu voit tout d'avance. Chers amis, les voix de Dieu ne sont pas nos voix et ne sont pas toujours les mêmes exactes de ce que nous pensons. Rappelons-nous que Dieu est le potier, il est le boss, c'est le maître d'œuvre. Et avec des gens souvent qui viennent à lui, qui sont complètement avec des vies qui sont en ruine, Dieu, essayez de réfléchir à ça, Dieu à partir d'un champ de ruine, d'un champ qui est en ruine, d'un cœur qui est en ruine, Dieu veut en sortir un chef-d'œuvre. Est-ce que vous vous imaginez ça? C'est ce que Dieu veut faire avec vous, c'est ce que Dieu veut faire avec moi. Et à quelque part, on vient tous devant Dieu. Je l'ai dit à mon dernier message, estropié, blessé par les choses de la vie. On vient à la moitié souvent ruiné. Un quart s'est ruiné, un tiers s'est ruiné. Mais rappelez-vous que Dieu, qui est le potier, à travers ça, veut faire de vous un chef-d'œuvre pour la gloire de son nom. Dieu veut accomplir, manifester sa puissance à travers des champs de ruines qu'il transforme en chef-d'œuvre. Dieu veut manifester sa puissance à travers ces gens-là. Et vous êtes, pour la plupart ici, il est déjà en train de travailler dans vos vies en tant que potier. Voilà le potentiel de quelqu'un que Dieu laisse travailler dans sa vie. Voilà le potentiel de quelqu'un, oui, qui laisse Dieu travailler dans sa vie. Par conséquent, que devons-nous faire? Nous devons dire, Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile, façonne-moi comme tu le veux. Façonne-moi, Seigneur, comme tu le veux. C'est ce que Paul dit à la fin du verset 13 en Romains 6. Mettez-vous tout entier au service de Dieu comme des instruments pour accomplir ce qui est juste. Que doit faire l'argile dans les mains du potier? Elle doit s'abandonner entièrement à lui. Puis-je vous poser une question ce matin? Avez-vous abandonné votre vie entièrement entre les mains de Dieu en tant que chrétien? Est-ce que Dieu peut vous former comme il le veut ce matin? Est-ce que Dieu peut enlever en vous ce qu'il veut ôter pour faire de vous la personne qu'il veut que vous deveniez? Voilà le potentiel de quelqu'un qui laisse Dieu travailler dans sa vie. La majorité d'entre nous, nous ne pouvons pas imaginer ce que nous pourrions devenir si nous permettions seulement à Dieu de faire le travail qu'il doit faire dans nos vies. Seigneur, en disant, « Seigneur, façonne-moi et fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne entièrement à toi. » On l'a chanté ce matin. On l'a chanté. Voici une deuxième chose que j'aimerais que vous remarquiez dans le texte. Non seulement il y a un potentiel illimité pour quelqu'un qui accepte de laisser Dieu travailler dans sa vie, mais j'aimerais vous montrer la conséquence qui attend quelqu'un qui résiste à Dieu. Regardez ce qui est écrit au verset 4 dans notre texte ici. Si le vase qu'il faisait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre comme il le jugeait bon. Frères et sœurs, le vase se trouve sur la roue. La roue tourne encore et encore, poussée par le potier. Le potier caresse le vase avec ses mains d'artiste. Mais quelque chose se passe. Le travail est gâché, ruiné, fiché en l'air. Problème. J'aimerais vous poser une deuxième question. Où se trouve le problème, frères et sœurs? Est-ce que le problème se trouve dans les mains du potier? Dieu est le potier. Pensez-vous que Dieu aurait raté son coup? Le problème ne réside pas dans les mains du potier. Le problème, c'est l'argile. Quel pourrait être maintenant le problème de l'argile, frères et sœurs? Premièrement, il pourrait y avoir des impuretés qui sont cachés à l'intérieur même de l'argile. Des petites pierres ou autre chose qui empêche le potier de faire en sorte que le vase devienne ce qu'il devrait être. Il peut y avoir des impuretés cachées dans votre vie, frères et sœurs, qui empêchent Dieu de faire ce qu'il veut accomplir, le chef-d'œuvre qu'il veut accomplir à travers vous. Peut-être que ce n'est pas une impureté qui est cachée. Il se peut que l'argile n'a pas été suffisamment brisée et travaillée. L'argile est pas suffisamment malléable. Il est alors difficile pour le potier de la travailler avec ses mains. Chers amis, y a-t-il quelque chose d'impur dans votre vie qui pourrait empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il voudrait faire avec vous ce matin? Ne répondez pas à haute voix, répondez en vous-même, pour vous-même. Vous êtes-vous totalement abandonné à lui en disant, « Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. » L'avez-vous déjà fait? Sinon, le travail que le potier voudrait faire est gâché, ruiné, bref, fiché en l'air, et le problème ne viendra pas du potier, mais de l'argile. Souvent, on entend des gens qui disent, « Ouais, mais moi, Dieu ne fait rien avec moi, il ne m'utilise pas, et ainsi de suite. » Mais est-ce que tu as tout abandonné entre les mains de Dieu pour qu'il puisse t'utiliser, travailler dans ta vie pour faire un chef-d'œuvre avec toi et faire en sorte qu'il puisse manifester sa puissance à travers lui, à travers toi? Le pasteur F.B. Meyer, que vous connaissez, qui a écrit plusieurs livres, était un chrétien fort connu au 19e siècle. Et comme pasteur, il a eu beaucoup de succès, mais il fut un temps où sa vie n'était pas comme elle aurait dû l'être. Il était en contact avec deux grands serviteurs de Dieu. Ceux qui ont suivi les études bibliques il y a quelques années devaient lire ses livres, soit Charles Studd et Hudson Taylor. Ces deux hommes semblaient remporter la victoire sur le péché jour après jour. Et ça frustrait F.B. Meyer. Ils avaient une joie et Dieu agissait avec puissance dans leur ministère. Et F.B. Meyer, il les regardait avec admiration. Et un jour, F.B. Meyer est allé voir Charles Studd et il lui a dit, « Charlie, vous semblez avoir la victoire jour après jour dans votre vie. » Vous semblez débordé de joie, vous semblez avoir quelque chose dans votre vie que je n'ai pas dans la mienne. Expliquez-moi ce que c'est. Charles Stott lui répondit, « Il n'y a rien que j'ai que vous ne pouvez pas avoir. » F.B. Meyer lui dit, « Mais comment puis-je l'avoir pour moi? » Stott répliqua, « Avez-vous tout donné à Dieu? Avez-vous tout abandonné à Dieu? » Et frères et sœurs, c'est une question que Dieu nous pose ce matin. Avons-nous tout donné à Dieu? Avons-nous tout abandonné à Dieu? Sinon, on peut s'attendre à recevoir des choses de Dieu, mais on va attendre très longtemps. Dieu ne marche pas dans des demi-mesures. Dieu est entièrement consacré à atteindre les perdus, et Dieu est entièrement consacré à vouloir travailler dans nos vies. Le potier, il ne met pas juste une main sur l'argile, il met les deux mains parce qu'il veut en faire une œuvre d'art, il veut faire quelque chose de magnifique, quelque chose d'attirant. Meyer prétendait qu'il n'avait pas entendu la question. Mais cette question, elle est allée se loger au plus profond de son cœur. Ce soir-là, lorsqu'il est retourné dans sa chambre, il commença à prier. « Parce que, dit-il, dans mon cœur, il y avait quelque chose avec laquelle je luttais. Quelque chose qui me semblait tellement insignifiante et que je ne voulais pas abandonner au Seigneur. Et pourtant, elle se trouvait là en moi et elle m'empêchait de vivre une vie victorieuse, comme Dieu me le promet. Je savais que je devais prendre une décision. » Je savais que je devais passer à l'action. Cette nuit-là, dit Meyer, je luttais avec Dieu jusqu'à ce que vienne le moment où je devais faire quelque chose. J'ai pris le trousseau de clés qui se trouvait dans ma poche et j'ai dit, voilà, Seigneur, mon trousseau de clés. Et chacune de ces clés accrochées après ce trousseau de clés représente un domaine particulier de ma vie. Je te le donne. B. Meyer, il me semblait entendre le Seigneur me dire, est-ce que toutes les clés que tu possèdes sont attachées dans ce trousseau? J'ai répondu, oui, Seigneur, elles sont toutes là, sauf une qui n'est pas sur le trousseau. Une toute petite clé, Seigneur. C'est la clé qui me permet d'ouvrir un petit placard. Mais c'est sans importance, c'est juste une petite clé. F.B. Meyer dit, le Seigneur me remit le trousseau de clé et se dirigea vers la porte pour quitter la pièce. Je criai, Seigneur, attends, ne t'en va pas, c'est juste une petite clé, Seigneur. Le Seigneur continua à se diriger vers la porte. Je lui dis, « Seigneur, reviens, voici toutes les clés. Je ne veux même pas croire que j'ai pu hésiter à ne pas te donner, mais la voici, prends-la, cette clé. » Et Meyer d'ajouter, « Le Seigneur prit le trousseau de clés, ainsi que la petite clé. Il entra dans ce petit placard et il commença à faire son œuvre en moi. Il a commencé à nettoyer dans ce placard ce qui n'était pas pour sa gloire. Dès lors, ma vie fut complètement transformée. » Chers amis, voulez-vous que Dieu vous transforme votre vie ce matin, s'il vous en donne l'opportunité? Avez-vous tout abandonné vos clés au Seigneur ce matin? Y a-t-il une petite clé qui traîne dans vos poches et qui vous permet d'ouvrir un petit placard, la porte d'un petit placard, dans lequel vous, non seulement vous ne voulez pas que le Seigneur voie, mais que vous ne voulez pas que personne voie ce qu'il y a à l'intérieur de ce placard ce matin? Chers amis, il y a une petite clé que vous gardez dans votre vie qui sert à ouvrir dans la trou. Pardon. Chers amis, il y a une petite clé que vous gardez dans votre vie, peut-être qui sert à ouvrir un petit placard dans lequel se trouve une chose que vous seul connaissez. Et je répète, mais qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Quelque chose où vous pouvez dire au Seigneur, prends toutes mes clés sauf celle-ci. Alors écoutez bien ceci. Alors le vase que Dieu voulait façonner sera raté. Il y a le potentiel illimité de quelqu'un qui accepte de laisser Dieu travailler dans sa vie. Il y a la conséquence que subit quelqu'un qui résiste à Dieu. Mais troisièmement, il y a aussi la promesse que Dieu fait pour quelqu'un qui se repent. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas laissé Dieu vous façonner comme il en avait l'intention que cela signifie que Dieu a abandonné la partie. Regardez ce qui est écrit au verset 4. Si le vase qu'il faisait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre comme il le jugeait bon. Dieu peut refaire un autre vase avec celui qu'il n'a pas réussi à fabriquer la première fois. C'est encourageant, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à entendre une bonne nouvelle ce matin? Vous pouvez prendre un nouveau départ. Il y a de l'espoir pour vous parce que notre Dieu est le Dieu de la deuxième chance, frères et sœurs. Amen! Oui! Je rencontre combien de chrétiens, ça fait 15 ans, 20 ans, je lui dis, comment ça va? Ben moi, ça va comme moi, la première journée que j'ai rencontré le Seigneur, il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a bougé. Et les gens sont découragés, les gens sont déprimés. Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Dieu efface nos péchés à la croix une première fois, Dieu est capable d'effacer tes manquements entre le jour où tu l'as reçu et jusque 10 ans ou 20 ans après ta vie chrétienne qui est nulle. Dieu est capable d'effacer. Il s'agit simplement de se repentir. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une promesse. Regardez ce qui est écrit dans les versets 6 à 8. « Jean d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier? » demande le Seigneur. « Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Parfois, à propos d'une nation ou d'un royaume, je parle de déraciner, de renverser et de détruire. Mais si cette nation renonce à la méchanceté qui a provoqué ma menace, alors je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Et la repentance ici, quand on parle de Dieu qui se repent, c'est Dieu change d'avis. Dieu avait prévu et Dieu change d'avis parce que la personne se repent. C'est extraordinaire, ça. C'est magnifique. Dieu qui a vu une vie médiocre devant lui de quelqu'un qui se disait son enfant, qui a peut-être baigné dans le péché pendant des années. Dieu fait la promesse, si tu te repens, tu reviens devant le trône de la grâce de Dieu, je vais t'accorder mon pardon. Pas merveilleux, ça. Dieu oublie. C'est extraordinaire. C'est la promesse qu'il fait. Si vous vous repentez de votre péché, je me repentirai du mal que j'avais pensé vous faire. N'est-ce pas ce que Dieu est en train de dire ici, frères et sœurs? C'est-à-dire, je vais me repentir du jugement que je voulais appliquer sur vous. Et pour chaque pécheur qui ne veut pas se repentir, je dois le dire, c'est la vérité, il y a un jugement qui attend chaque pécheur qui n'a pas voulu se repentir, qui n'a pas voulu accepter l'offre que Dieu lui accorde, lui présente à la croix à travers la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici une promesse pour chacun de nous ce matin. Vous pouvez penser avoir raté votre vie, vous pouvez avoir vu votre vie être gâchée par un péché quelconque que vous avez tenu secret pendant de longues années, mais Dieu vous dit, je ne garde pas rancune, je suis le Dieu de la deuxième chance. Il dit au verset 8, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé de faire. Cette nation, frères et sœurs, c'est des individus qui composent une nation. Si ces individus sur lesquels j'ai parlé reviennent de leur méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. La grâce de Dieu, frères et sœurs, la grâce de Dieu qui n'est pas limitée. Dieu est un Dieu qui accorde une deuxième chance. Nous pouvons être déçus et penser qu'il est trop tard pour que la Belgique connaisse un réveil spirituel, pour que le monde vive un réveil spirituel et pour que l'Église vive un réveil spirituel dans le monde. Mais les pays, les églises sont composés d'individus. Et Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cette promesse, elle est toujours valable aujourd'hui. Premièrement, pour quelqu'un dont le cœur est toujours malléable. Et deuxièmement, cette promesse, elle est toujours valable pour celui qui veut bien remettre toutes les clés à Dieu. Si votre vie a été brisée en 1000 morceaux en raison d'une ou de plusieurs situations désastreuses que vous avez vécues, donnez-lui toutes les clés. Mais faites-le pendant que votre cœur n'est pas encore endurci, chers amis. Dieu pourra alors travailler avec vous et fabriquer un autre vase. Êtes-vous prêt à faire cela? Examinons maintenant le dernier point, le danger que court quelqu'un qui est rebelle. J'aimerais maintenant vous montrer le danger que court quelqu'un qui est rebelle. Vous pouvez être dans cette salle ce matin et vous pouvez dire, « Eh bien, moi, je ne vais pas céder ma vie à Dieu. » Permettez-moi de vous dire ce qui va se passer. L'argile que vous êtes va devenir de plus en plus dure. Non seulement elle restera déformée, mais le temps va passer. Et plus elle durcira, elle va durcir au point où il n'y aura plus rien de bon à faire avec l'argile. Regardez ce qui est écrit au verset 1 du chapitre 19 de Jérémie. Ainsi a parlé l'Éternel. Va chez le potier t'acheter un vase de terre et prends avec toi quelques membres du conseil des anciens, laïcs et prêtres. En d'autres mots, prends les dirigeants et les sages. Ensuite, regardez dans les versets 10 à 12. Puis tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi et tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potier. Ce sera irrémédiable. Quant au Tophet, hein, le Tophet, c'était la vallée du carnage. Hein, c'était une vallée qui faisait partie de la vallée de la Géhenne, où les Juifs, à un moment donné, ont offert en sacrifice des enfants. Eh bien, le Tophet, c'est là, Dieu a appelé ça la vallée du carnage. Et qu'est-ce qu'il dit ici? C'est là qu'on enterre les morts, faute de place ailleurs. Regardez verset 15. « Je vais faire venir sur cette ville et sur tous les villages voisins qui dépendent d'elle, tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont raidi le coup et qu'ils ont refusé d'écouter mes paroles. » Voici le danger maintenant qui guette quelqu'un qui est rebelle à Dieu. Vous pouvez être assis dans cette salle ce matin et je peux parler sur les choses que Dieu considère comme étant impures. Je peux parler de résistance et vous pouvez être convaincu de péché et dire, « Moi, voici, Seigneur, je te cède ma vie, je me repens, prends ma vie. Façonne-moi, permets-moi de prendre un nouveau départ. » Ou vous pouvez tout simplement dire, « C'est ma vie. » Je vais la vivre comme je veux. Il n'est pas question que je te cède ma vie, Seigneur. C'est votre droit. Mais si vous faites cela, vous allez endurcir votre cœur. Et une fois que l'argile a durci, le potier ne peut plus rien faire de bon avec celle-ci. Il ne peut même plus la travailler. Dieu est celui qui donne une seconde chance. Si vous lisez la Bible, vous découvrirez qu'elle est remplie de gens à qui Dieu a donné une seconde chance. Mais à chaque fois, ils étaient malléables. Et Dieu pouvait continuer à agir dans leur vie. Devant chaque homme et devant chaque femme, devant chaque garçon et devant chaque fille qui se trouve dans cette salle ce matin, il y a une date limite. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera détruit subitement et de manière irrémédiable, nous dit l'auteur des Proverbes. Une fois que vous franchissez la ligne rouge et que vous dites, il n'est pas question que je cède ma vie au potier. L'argile commence à durcir de plus en plus. Et alors, il arrive un temps où Dieu ne peut plus rien faire. Il est trop tard. Et lorsque cela arrive, votre sensibilité spirituelle s'atténue et elle finit par disparaître. Écoutez ce que Paul écrit concernant Israël dans Romains chapitre 11, verset 8. Dieu a rendu leur esprit insensible. Il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre jusqu'à ce jour. Savez-vous qu'il y a peut-être des gens dans cette salle ce matin qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas? Ils n'ont peut-être même pas besoin de porter un appareil auditif ou des lunettes, mais ils ne peuvent pas entendre ni voir les choses spirituelles parce qu'au fil des années, ils se sont endurcis. Ils sont comme ce vase qui a durci avec le temps et qui ne peut plus être façonné ni modelé. Voilà pourquoi je vous invite, pendant que votre cœur est encore souple et malléable, à venir à Jésus-Christ. Il ne vous rejettera pas, il vous recevra. Et si vous voulez être sauvé, vous pouvez être sauvé. Sinon, il viendra un temps où il sera impossible pour vous de venir au Seigneur. Permettez-moi de vous lire un des passages les plus terrifiants que je connaisse dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée pour qu'ils fassent ce qu'ils ne devraient pas faire. Dans le jargon évangélique, on dit que c'est le Saint-Esprit qui endurcit le cœur des gens. Quand les gens ont entendu la parole et qu'ils l'ont méprisée pendant tant d'années, l'effet contraire, plutôt que de convaincre les gens de péché et de justice, le Saint-Esprit endurcit le cœur des personnes. Il leur est impossible. Il est trop tard, c'est ce que la parole nous dit. J'aimerais que vous pensiez à ces passages en terminant ce matin. Dieu dit, « Je suis le potier, vous êtes l'argile, une argile incapable, déloyale, mais entre mes mains, vous êtes quelqu'un d'important. » La roue, ce sont les circonstances de la vie. Dieu dit, « Je veux faire en sorte qu'il sorte de vous quelque chose de magnifique. Je veux faire avec vous, un chef-d'œuvre. » Dieu dit, « Répondez à mon appel, car j'ai un plan pour vous. » C'est là le potentiel de quelqu'un qui laisse Dieu agir dans sa vie. Il y a une conséquence qui attend celui qui résiste à Dieu. S'il y a une impureté qui est cachée dans votre vie, vous passerez à côté, vous gâcherez tout. Mais il y a une promesse pour celui qui se repent. Peut-être que vous pensez que vous avez gâché votre vie ce matin. Peu importe l'âge que vous avez. Il n'est jamais, jamais trop tard avec Dieu. Vous savez, le fondateur de McDonald's et Hamburger, vous savez à quel âge qu'il a commencé à mettre son empire en fonction? Il a quitté son emploi, il a vendu sa maison. Il avait 53 ans. 53 ans pour partir, pour risquer le tout pour le tout, parce qu'il avait été dans un petit restaurant qui faisait des Big Mac, et ça l'avait touché de manger un Big Mac. Il avait bien aimé l'odeur du Big Mac et le goût du Big Mac, et il a dit, c'est pas possible qu'il y ait juste un restaurant qui vende des hamburgers comme ça, il faut partir dans le monde entier, des restaurants, il a acheté la licence, et il est parti des franchises à droite et à gauche, et quand il est mort, à l'âge de plus de 80 ans, il y avait au-delà de 10 000 McDonald's à travers le monde entier. C'est un gars qui avait la foi, hein? La foi que ça marcherait. Hein? Ouais. Il avait une vision parce qu'il avait une vision pour ce qu'il avait à cœur. Il n'y a pas d'âge. Frères et sœurs, ici, on est dans une société, hein? Que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, où on essaie de mettre les gens le plus rapidement possible à la retraite. De moins en moins aujourd'hui parce que ça coûte cher. Hein? Mais Dieu ne parle pas de retraite dans sa parole. Hein? Ouais. Dieu veut vous utiliser jusqu'à ce qu'il vous rappelle à lui. Hein? Ouais. Le repos céleste. Il est dans notre cœur, notre joie, notre paix. Mais il y a un repos extraordinaire qui nous attend en haut. Hein? Et on n'est pas appelé à passer l'éternité les bras croisés. Hein? On va régner. Donc, régner, ça veut dire qu'on va faire des choses. Hein? Oui. Ouais. Et on va être avec notre maître, hein? Avec la personne de Jésus-Christ. Oui. Peut-être que vous avez pensé que vous avez gâché votre vie, mais il n'est pas trop tard parce que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il peut vous permettre de tout recommencer à zéro. Il peut faire de vous un autre vase. Mais il y a un danger que court celui qui est rebelle. Lorsque vous dites simplement « Non, je ne veux pas de toi, Seigneur. Je veux continuer à diriger ma vie comme je le veux. C'est ma vie après tout. » Eh bien, celui qui mérite d'être repris, qui rédit le coup, sera détruit subitement et de manière irrémédiable. Une fois que le vase est endurci, c'est terminé. Et la chose la plus sage que vous pouvez faire, si vous ne l'avez pas encore fait, serait de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, personnel. Dites simplement, « Me voici, Seigneur. Je veux maintenant m'abandonner. Je veux maintenant m'abandonner à toi. Je veux suivre ton chemin, Seigneur. Tu es le potier. Je suis l'argile. Façonne-moi. Fais de moi ce que tu veux. C'est ce que j'attends de toi. » Et même si vous ne l'avez pas fait, que vous avez dit, « Seigneur, j'ai raté ma vie. Il est le Dieu de la deuxième chance. Il vous permettra de prendre un nouveau départ ce matin. » Mais quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur ce matin. Tant et aussi longtemps que l'argile est malléable, tant et aussi longtemps que le potier peut, avec ses mains d'artiste, travailler, façonner, pétrir, eh bien, il y a de l'espoir. Même si le vase est déformé, il est bien bon. Mais si le vase est déformé, il n'est que bon à être jeté et à ne jamais plus être en mesure d'être restauré. Quelle triste fin, n'est-ce pas? Quelle triste fin. Il est écrit dans la Bible, « Crois, Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il est mort pour vous sur la croix. Il a versé son sang pour vous sur la croix afin de payer le prix exigé par la loi de Dieu pour vos péchés. Il peut faire de vous, qui êtes un morceau d'argile, un beau vase qu'il utilisera pour sa gloire. » Si vous n'êtes pas certain d'être sauvé ce matin, j'aimerais faire une prière dans laquelle vous pouvez recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, personnel et votre Seigneur. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas sauvé simplement en répétant ces paroles, mais vous êtes sauvé en faisant confiance au Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à faire cette prière dans votre cœur. Je vous invite à incliner votre tête, à fermer vos yeux. Prions. Seigneur, je suis un morceau d'argile, impur, incapable et déloyal. Mais tu es le potier. Seigneur, ce matin, je veux abandonner ma vie entre tes mains. Seigneur, je veux te recevoir comme Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et commence à faire de moi la personne que tu veux que je devienne. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas sur la manière de vivre que tu demandes, mais par la foi, je m'en remets à toi. Viens dans mon cœur, pardonne mes péchés. Purifie-moi et sauve-moi, Jésus. Faites cette prière dans votre cœur ce matin. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi le temps que je suis encore malléable. Seigneur, toi qui es le potier, prends ma destinée entre tes mains et façonne-moi à l'image de Jésus-Christ. Fais de moi une œuvre d'art pour que je puisse être utilisé pour ta plus grande joie. Et c'est dans Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. On va chanter le cantique numéro 14.